Plateforme. Les sciences.
Bibliothèque nationale de France. Femmes et sciences. Opératrice de saisie ou hackeuse, la place des femmes dans les métiers des technologies de l'information et de la communication. Avec Isabelle Collet.
Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un bâtiment que j'aime beaucoup et où j'ai de bons souvenirs de thèse, de travail au sous-sol. Et ça m'a fait plaisir de revenir ici pour vous parler donc à l'Instillation de Femmes et Sciences, qui a eu l'amabilité de m'inviter, des femmes, mais aussi des hommes, dans l'informatique. Alors, pour commencer, je vous dirais que je suis informaticienne de formation, informaticienne scientifique même, de formation. Et puis ensuite, ne trouvant pas de travail en informatique au moment où j'en ai cherché, ce qui devait être à peu près des rares moments où on n'en trouvait pas, je suis, pas eu de chance dans la synchro, je suis devenue formatrice et puis je suis partie faire des sciences de l'éducation. Et j'ai une thèse en sciences de l'éducation où j'ai étudié le genre et l'informatique, et en particulier l'investissement très important des hommes et le moindre investissement des femmes dans les métiers de l'information et de la communication. Alors, pour commencer cette conférence, je me suis dit que j'allais faire un tout petit peu d'histoire de l'informatique, modestement. Je ne vais pas retracer toute l'histoire de l'informatique. Ne serait-ce que pour vous montrer que quand on fait une histoire, on fait des choix et on peut, dans son histoire de l'informatique, choisir ou pas de parler des femmes qui en ont fait partie. Alors, on commençait l'histoire de l'informatique. On pourrait commencer une histoire de l'informatique, on va dire des concepts, des idées de l'informatique, on pourrait la commencer dans l'Antiquité. On pourrait parler du boulier, on pourrait parler des calculs aztèques, etc. On pourrait parler aussi, faire strictement une histoire des machines, c'est une autre façon de faire l'histoire de l'informatique. Quand moi j'étudiais l'informatique, j'étais à l'IUT à Reims, l'histoire de l'informatique, elle a commencé en France. Elle a commencé avec Blaise Pascal quand il a conçu la Pascaline en 1642, réalisée en 52. Alors la Pascaline, elle est visible au Musée des Arts et Métiers. Si vous ne connaissez pas ce musée, je vous conseille chaleureusement sa visite, surtout pour les gens qui aiment les machines, c'est un vrai bonheur. Le fait que j'ai fait mes études en France, à mon avis, a été probablement la raison pour laquelle on m'a démarré à cette époque-là l'histoire de l'informatique en France. Parce que je pense que si j'avais été en Allemagne, peut-être qu'on m'aurait démarré cette histoire de l'informatique avec une machine que certes on ne peut pas montrer dans un musée parce qu'on ne l'a pas retrouvée, elle a complètement disparu dans l'incendie de l'ère de 30 ans, mais la première trace d'une machine qui automatise les calculs, contrairement à une règle à calcul par exemple qui ne les automatise pas, ce serait la machine de Wilhelm Schickard qui en parle en 1623 dans une lettre à Kepler, où il appelle ça une horloge calculante, mais dans une lettre suivante, il signale donc que cette horloge a complètement disparu dans un incendie et qu'il n'a pas l'intention de la reconstruire. Si je démarre avec ces deux machines, c'est pour vous dire que, voilà, on fait des choix. Quand on raconte une histoire de l'informatique, ce ne sont pas uniquement des faits qui pourraient décider sans ambiguïté de comment raconter l'histoire et où commencer, et qui, pour moi, a permis de démarrer l'informatique en France avec la Pascaline, mais d'autres choix peuvent être faits. Alors, on va continuer à avancer dans les machines qui automatisent les calculs. On va aller en Angleterre cette fois, avec probablement une des premières machines qui mérite le nom d'ordinateur, même si elle est mécanique, qui est inventée par Charles Babbage, qui est d'une part un grand mathématicien, et qui s'est mis à arrêter sa production mathématique pour se passionner sur des travaux plutôt d'ingénieurs en construisant des machines. Et donc, entre 1836 et 1838, il développe une machine analytique. Même s'il ne s'intéresse pas réellement à la programmation de cette machine, il s'intéresse à la construction de la machine elle-même. Bon, À l'époque, il y avait des salons scientifiques où on pouvait rendre visite à la machine de Babbage. Souvent, il faut reconnaître qu'elle était considérée comme un espèce de superbe gadget qui permettait de produire des résultats mathématiques. Et Babbage, qui savait évidemment que c'était plus qu'un gadget, était sans cesse à la recherche de fonds pour pouvoir poursuivre ses travaux et passer éventuellement, enfin, et passer de la machine analytique à une étape, enfin, de la machine à différence, qui était la machine précédente, à la machine analytique. Sa motivation, quand il l'a construite, c'était, par exemple, de pouvoir comptabiliser le nombre de ressortissants de l'Empire britannique, donc déjà des gros travaux statistiques, mais il avait parfois un peu de mal à expliquer à son public la puissance que pouvait avoir une telle machine. Et si on veut être tout à fait exact, après tout, dans l'histoire de cette machine, on pourrait se souvenir qu'il y avait en France, là pour le coup, un peu avant, une autre machine qui était déjà capable d'automatiser un certain nombre de calculs, d'une certaine manière. Ça, ce que je vous montre là, c'est la machine Jacquard, elle aussi au Musée des Arts et Métiers. Et finalement, la machine de Babbage, vous allez voir, elle s'est aussi inspirée de cette machine Jacquard. Une invention, ce n'est pas une seule personne finalement qui l'a produit, c'est pour vous dire que c'était un peu dans l'air du temps. On était en train de fabriquer des machines qui automatisaient les calculs. Là, on est sur les machines et je vais donc vous parler de la première femme qui apparaît dans cette histoire des machines qui automatisent les calculs, qui est quelqu'un de peu ordinaire, qui est Ada Byron, comtesse de Lovelace, qui est donc la fille de Lord Byron et qui est devenue mathématicienne. Alors, elle est devenue mathématicienne pour des raisons qui peuvent paraître étonnantes. Elle était la fille de quelqu'un qu'on considérait comme étant un des plus grands esprits de son temps, un poète romantique, Lord Byron, même si elle ne l'a jamais rencontré, parce que juste après sa naissance, Byron est parti faire la guerre en Grèce et il n'en est jamais revenu. Mais c'était à la fois un des plus grands esprits de son époque, mais c'était aussi quelqu'un de peu recommandable, qui avait des mœurs extrêmement discutables, il y avait des rumeurs d'homosexualité qui couraient sur lui, des rumeurs d'inceste. Et la mère d'Ada pensait que le caractère fantasque et pervers de son père était probablement dû, d'une façon ou d'une autre, à cette poésie romantique qu'il écrivait. Et si Ada, sa fille, avait bien entendu hérité du génie de son père, elle avait très probablement aussi hérité de sa perversité et qu'il fallait à tout prix la détourner de la poésie romantique. La meilleure façon de la détourner étant d'en faire une mathématicienne, parce que ça semblait moins risqué. Donc c'est ainsi que, dès son adolescence, Ada a reçu une instruction mathématique assez complète avec de très bons précepteurs. Et en tant que fille de Lord Byron, eh bien, on supposait que, comme on disait à l'époque, les limitations dû à son sexe, ne s'appliquait pas à quelqu'un qui était la fille d'un des plus grands esprits de son temps. Donc, elle s'est mise à faire des maths. Seulement, voilà, le chemin mathématique d'Ada n'a pas été si simple parce que, à la fois, elle savait très bien pourquoi on lui faisait faire des maths. C'est-à-dire que, d'un côté, on lui disait « Tu as l'intelligence pour le faire parce que tu es la fille de ton père. » Et d'un autre côté, tu es menacée par sa perversité qui risque de te rendre folle parce que tu es la fille de ton père. Pas très facile d'avoir l'esprit tranquille et au clair, par exemple, pour se concentrer sur des études mathématiques. Surtout quand on a une telle pression qui pèse sur ses épaules et quand on a 17 ans. D'ailleurs, à 16 ans, elle fut son précepteur de mathématiques, confirmant à la fois une certaine précocité et à la fois que l'influence néfaste de son père est active. Néanmoins, donc, elle promet qu'elle ne le fera plus, qu'elle sera sage, qu'elle travaillera. Et l'année suivante, elle est lancée dans le monde en tant que fille de Lord Byron, donc vous voyez comment échapper à sa destinée quand on vous y ramène sans arrêt. Et c'est là qu'elle rencontre Charles Babbage et sa machine à différence, l'étape précédente, la machine analytique, et elle commence à travailler avec lui sur cette machine. Alors, c'est assez difficile de savoir quelle a été exactement la nature de sa participation, d'autant plus que quand le mémoire qu'elle va faire paraître, elle ne peut pas le faire paraître sous son nom, parce qu'elle est une femme et ça ne se fait pas, donc elle ne le fait paraître que sous ses initiales. Par ailleurs, elle ne travaille pas sur la machine elle-même, mais sur la programmation de la machine, enfin la façon de faire les calculs, qui n'était pas quelque chose d'important, enfin qu'on considérait comme absolument pas important à l'époque, qui n'était pas mis en valeur. Donc, c'est aussi un peu difficile de savoir quelle importance réelle est-ce qu'elle a produit réellement. Il est certain qu'elle, elle n'a pas vu la machine analytique, enfin la machine à différence, puis la machine analytique comme un gadget. Là, je vous ai mis une citation qui vient de son mémoire. Elle en a perçu toutes les possibilités. Et Babbage, d'ailleurs, s'il a travaillé avec elle, c'est parce qu'il a été satisfait de voir que c'était quelqu'un qui comprenait les potentialités de cette machine. Après, il se trouve que ce pour quoi elle est célèbre, c'est-à-dire un programme, un premier programme informatique qui permet de calculer une suite mathématique, est passé complètement inaperçu. C'est-à-dire que ce premier programme, qui en particulier met en œuvre une boucle, c'est la première trace, si l'on peut dire, d'une programmation avec une boucle, ni elle, ni Babbage, ni à peu près personne d'ailleurs, n'ont vu l'importance de ce qu'elle avait pu découvrir quand elle a écrit cette partie qui semblait anecdotique dans le fonctionnement de la machine, qui d'ailleurs n'a jamais réellement marché parce que Babbage apparemment n'était pas quelqu'un de caractère facile. Il a eu des conflits importants avec la personne qui l'aidait à réaliser la machine sur des questions déjà de droit d'auteur en quelque sorte. Il est arrivé à court d'argent. Comme il n'était pas de caractère facile, il avait du mal à s'en faire prêter. Finalement, la machine analytique n'a jamais fonctionné. Même si maintenant elle est exposée à Londres et qu'elle a été mise en marche et que, bon, Babbage n'est pas tombée loin, elle était prête à marcher. Et le mémoire d'Ada a disparu, enfin est tombé dans l'oubli, a été redécouvert bien plus tard, alors que la boucle avait été en quelque sorte réinventée, mais on a pu voir que ce qu'elle avait mis en place et qui lui avait été inspiré d'ailleurs en partie par la machine Jacquard, eh bien on pouvait déjà l'appeler comme un premier programme informatique. Alors pour finir rapidement sur la vie d'Ada Byron, qui n'est pas très heureuse, elle fait plusieurs, ce qu'on appelait des crises d'hystérie. Il faut avouer que la pression qui était sur elle était assez forte. Sa mère était une mère assez possessive et tyrannique. Par exemple, sa mère a refusé que Ada ne voie un portrait de son père avant qu'elle se marie, tellement elle pensait que la simple vue d'un portrait de son père pourrait faire ressurgir toutes ces pensées mauvaises et toute cette mauvaise influence qu'il pouvait avoir sur elle. Alors que son père était pratiquement mondialement célèbre. Vous voyez un peu la complexité de la situation. Malheureusement pour Ada, le mari qu'elle se trouve ou que sa mère lui trouve s'entend merveilleusement bien avec sa mère. Donc elle n'obtient pas l'autonomie, en particulier l'autonomie financière qu'elle voudrait posséder. C'est-à-dire qu'elle trouve absolument anormal que sa mère en tant que veuve ait de l'argent, que son mari en tant que mari ait de l'argent et qu'elle, elle doive se contenter d'une rente microscopique. Et puis elle essaye de racheter l'âme de son père par ses calculs mathématiques et par son travail, ce qui est aussi une quête passablement impossible à réaliser. Alors évidemment, Ada n'écrit que ce mémoire en mathématiques, mais pas facile de faire des études mathématiques poussées et continues quand on a autant d'influence et de pression autour de soi. Et elle meurt finalement assez jeune, à 33 ans, sans avoir, on va dire, réalisé et été jusqu'au bout de ce qu'elle aurait aimé réaliser, tant en mathématiques qu'en musique par la suite, ou même en mesmérisme, parce qu'elle s'intéresse à un moment au mesmérisme. Donc voici la première personne qu'on peut croiser dans l'histoire de l'informatique. On va continuer à avancer. Nous voici un peu plus tard, un siècle plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était l'époque où un ordinateur s'apprenait un petit pâté de maison, donc j'exagère un peu, mais enfin vous voyez, c'était assez imposant. À cette époque-là, l'informatique était investie dans l'effort de guerre. C'était un peu la course pour faire des calculs balistiques, par exemple. À cette époque-là, Howard Eichen travaille sur un des premiers ordinateurs, le Mark One, et il y a quelqu'un, une des très rares personnes à pouvoir porter le titre de senior programmeur, ou à l'époque ça pouvait s'adapter à peut-être une petite douzaine de personnes, et ben c'est Grace Hopper, qui était militaire évidemment, qui a fini sa carrière en tant qu'amiral. Et Grace Hopper, ben, elle aussi, elle s'intéresse à la programmation, au logiciel. C'est pas un hasard que les deux premières femmes importantes dans l'informatique, on les retrouve dans le logiciel, c'est parce que, encore une fois, à cette époque-là, le logiciel, ce n'était pas ce qui était important. Ce qui était important, c'était la machine. C'est là où il y avait du prestige à gagner, c'est là où on venait acquérir des titres de noblesse, c'est là où on venait se battre, et pas sur le logiciel. Mais Grace Hopper, elle avait une vision assez juste, puisqu'elle a prophétisé qu'un jour le logiciel coûterait plus cher que le matériel, ce qui est réalisé depuis quelque temps. Et elle a prophétisé aussi que l'informatique, ça pouvait être... Alors, informatique pour tous n'est pas l'expression qu'elle employait à l'époque, mais que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de monde, et pas une poignée de mathématiciens ou de mathématiciennes pourraient faire de l'informatique. Et pour cela, il fallait que les ordinateurs parlent anglais. Et qu'à partir du moment où on aura un langage aussi naturel, aussi proche de l'anglais que possible, eh ben, ce ne serait plus une discipline réservée à une poignée de mathématiciens d'élite, mais que beaucoup de monde pourrait se mettre à programmer. À cette même époque, Howard Aiken disait qu'il y avait de la place au monde pour 2 ou 3 supercalculateurs et c'était tout. Donc, vous voyez, ce n'était pas tout à fait la même vision. C'est plutôt la vision Grace Hopper qui finalement l'a emportée, sachant qu'au moment où elle disait « il est possible que les ordinateurs parlent anglais », elle n'était pas prise au sérieux. C'est probablement pour ça d'ailleurs qu'on l'a laissée tranquille quand elle a fait ses recherches sur un langage à peu près naturel. Donc elle a créé un certain nombre de langages et elle a inventé un procédé qui est le procédé de compilation, qui permet, pour aller très vite, de passer d'un langage aussi naturel, pas si naturel que ça, mais enfin relativement cadré, mais quand même un langage qui rappelle l'anglais, à l'autre bout, un langage adapté à la machine. C'est suite à Grace Hopper qu'on a pu, donc là, si elle tient en main la brochure du COBOL, c'est parce que c'est elle qui a compilé ce langage qui s'appelle le COBOL, qui a été un des très gros langages de l'informatique de gestion et qui est toujours en vie, bien que peut-être un petit peu archaïque et un petit peu lourd, mais qui est toujours en vie sur un certain nombre de machines aujourd'hui. Ce n'était pas la seule femme aux commandes sur cette machine qui, elle aussi, prenait à peu près un pâté de maison et s'appelait l'ENIAC. Eh bien, on avait 6 mathématiciennes qui programmaient. Alors, programmaient à l'époque, vous voyez, ce n'était pas un clavier, hein, c'était... On allait directement intervenir dans la structure même de l'ordinateur. Donc, il y avait 6 programmeuses de l'ENIAC, dont vous voyez quelques représentations ici, qui ont fait partie également des toutes premières personnes à pouvoir dire qu'elles ont fait de la programmation. Grace Hopper est également restée célèbre pour avoir diffusé et utilisé pour la première fois le terme de bug pour parler de... problème informatique. Alors, le terme de bug était déjà en usage pour parler de problèmes techniques. On trouve ce terme, par exemple, dans un manuscrit d'Edison, qui dit qu'il y a un problème et qui dit qu'il y a un bug. Et sur l'ENIAC, un beau jour, bon, il y avait sans arrêt, c'était une machine qui marchait avec des lampes et avec des relais, donc ça claquait un peu sans arrêt. Et puis, un beau jour, on a trouvé une mythe, ce petit insecte-là avec des ailes, qui avait fait griller une des lampes de l'ENIAC, et donc l'insecte incriminé lui a été ramené, et elle l'a collé sur le tableau de bord de l'ENIAC en disant « premier bug réellement identifié ». Et donc depuis, par la suite, elle a utilisé ce terme de bug, qui pour le coup avait été un vrai insecte, pour une fois, dans l'ENIAC, et c'est elle qui a, c'est peut-être pas elle qui a trouvé la première mythe, mais qui a utilisé le terme de bug. Je vous raconte ça parce que dans assez peu de temps, je vous en reparlerai de cette histoire de bug avec Grace Hopper. Une idée reçue, que j'ai déjà commencé un petit peu à attaquer, qui est de dire il n'y a pas de femmes en informatique, il n'y a pas d'informaticienne célèbre. Dans les moments importants de la vie de l'informatique, on n'a pas beaucoup de femmes. Alors, vous savez déjà répondre aux 2 premières questions. Je viens de vous en parler. Et puis, ça continue, c'est-à-dire il n'y a pas ces 2 pionnières, et puis maintenant, on tire l'échelle, il n'y a plus que des hommes qui créent de l'informatique. Il y a toujours des chercheuses en informatique. Et donc, par exemple... que ce soit dans le routage sur Internet, que ce soit de la cryptographie, ou bien encore de la recherche à partir de mots-clés, eh ben on a des femmes qui se retrouvent à diverses époques, et puis on en aura encore, évidemment, toujours, dans la recherche en informatique. Alors maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous, si l'on peut dire, des hommes et des femmes dans l'informatique? Alors, tout d'abord, depuis Grace Hopper, on va dire, l'informatique a un petit peu changé. C'est pour ça que je suis venue avec une cartographie pour savoir de quoi on va parler ici. Parce que le mot informatique, en français, il est extrêmement pratique, il sert à tout. C'est-à-dire, des gens vont vous dire « je suis sur informatique », ça veut dire en fait, souvent, qu'ils travaillent sur ordinateur. « Je fais de l'informatique », qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On peut y trouver des choses aussi variées que finalement... commander une machine-outil ou faire de la vente en ligne. Alors, ce mot, il est tellement pratique qu'il n'a pas de traduction directe en anglais. C'est-à-dire, les anglo-saxons, quand ils parlent de ce qu'on fait avec un ordinateur, ils ont des termes appropriés. C'est-à-dire, computer science n'est pas la même chose que data processing, par exemple. Mais nous, en français, tout ça, ça pourrait se regrouper sous le terme informatique. Et ce qui est amusant, c'est que quand on fait des conférences internationales, les non-anglo-saxons, souvent, se rabattent sur le terme informatique, qu'ils écrivent d'ailleurs ICA, parce que c'est tellement pratique pour dire les trucs qu'on fait avec un ordinateur, qu'on peut employer ce mot. Sauf qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, d'où cette petite cartographie. Alors, au milieu de mes cercles concentriques, on va dire qu'il va y avoir les informaticiens et informaticiennes, entre guillemets, purs et durs, les spécialistes du réseau, du logiciel, des systèmes, des machines, on va dire les gens qui sont produits par les écoles d'informatique, les diplômes d'informatique. Le cercle le plus extérieur, c'est ce qu'on appelle les métiers impactés, c'est-à-dire les métiers dans lesquels l'informatique est totalement indispensable, mais où pour autant de vraies compétences d'informaticien ou d'informaticienne ne sont pas forcément nécessaires. Par exemple, le cyberart nécessite d'être artiste dans ce domaine plus que d'être informaticien ou informaticienne. La documentation en ligne, la physique, la chimie, etc., la biomécanique, les systèmes d'e-commerce ou de gestion de personnel, etc. Et puis, cette zone bleu moyen, c'est l'endroit où les métiers impactés, l'informatique se rencontrent. C'est-à-dire, dans cette zone-là, on peut trouver aussi bien des gens qui viennent de l'informatique et qui ont migré vers le métier, ou bien des gens qui viennent du métier et qui ont acquis des compétences d'utilisateurs très, très éclairés, de sorte qu'ils se retrouvent dans cette zone-là. On peut se demander, finalement, si ces frontières qu'on avait réalisées au moment de cette cartographie vont rester pertinentes. Il y a un certain nombre de personnes, on n'arrive plus à dire est-ce un utilisateur éclairé ? Est-ce un informaticien ? Où on se trouve ? Bon, cette ligne pointillée, ce n'est pas elle qui va me préoccuper. Heureusement, je vais faire beaucoup plus simple. Moi, je vais vous parler du milieu, là, le bleu foncé. Les personnes qui sortent, qui sont diplômées en informatique, le système, le réseau, le logiciel, les machines. Alors, la discipline informatique connaît en France, et même en Europe et aux États-Unis, une évolution tout à fait étonnante. Cette évolution étonnante, on peut en trouver des traces quand on discute avec des personnes qui ont connu différentes époques de l'informatique. Parce que dans les années 70-80, finalement, c'était une époque où il y avait plutôt beaucoup de femmes. Je dis plutôt parce que pour un métier scientifique et technique, c'était quand même un métier dans lequel il y avait beaucoup de femmes. Et puis, à mesure que le temps passe, et alors qu'on dit que les femmes progressent absolument dans toutes les disciplines et que bientôt la parité sera atteinte dans toutes les disciplines parce que les femmes y progressent, ben en informatique, non, en informatique, c'est pas vrai. Pour le coup, c'est la présence des hommes qui se renforce fortement dans cette discipline. Et donc, on peut en retrouver des traces quand on discute avec des personnes qui ont connu différentes époques. Je me souviens d'avoir discuté avec un chef de département informatique en retraite, qui me disait « Ah, mais c'est curieux votre recherche, parce que quand même, en informatique, il y a pas mal de femmes. » Et effectivement, il était actif à une époque où, quand il comparait dans les départements voisins de son école d'ingénieur, bah, finalement, en informatique, il était pas mal loti là-dessus. Et puis, j'ai aussi parlé avec des chefs de département plus jeunes, ça faisait une dizaine d'années, la personne, j'ai fait mes entretiens, ça devait être en 2003, ça faisait une dizaine d'années qu'il était à la tête du département, et il me disait, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, les femmes en informatique, ça ne les intéresse pas, elles ne viendront jamais, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, c'est pas, on aimerait bien, hein, mais on ne peut pas. Alors que dans son école, 20 ans plus tôt, il y en avait, mais il ne le savait pas. Donc, finalement, on peut avoir des représentations comme ça assez déconnecté de la réalité ou en même temps qu'il ne connaît pas l'histoire de son propre département parce qu'on est dans une ambiance qui donne à penser que là, pour lui, pour ce deuxième chef de département, ma foi, il y avait peu de femmes et c'était ainsi. Alors, peu, beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien? Alors, alors ici, mes chiffres s'arrêtent en 2000. J'ai un graphique un peu plus récent. On va jusqu'en 2005. Alors, vous avez la courbe bleue, la féminisation des écoles d'ingénieurs, toutes filières confondues. Aujourd'hui, on a passé les 25%. On est à 26 et des petites virgules. Bon, disons qu'en 5 ans, on a gagné 1%. Oui, je suis capable d'aller même un peu plus loin que ça. OK, la part des femmes augmente régulièrement, mais vous voyez que la pente est quand même assez modeste. Hein. Si entre 2000 et 2009, on a gagné 1% sur la parité, on a quelques années devant nous avant, si on reste sur la même pente. Alors évidemment, au début, ça va très vite parce que un certain nombre d'écoles étaient non mixtes dans un premier temps. Donc forcément, on ne peut qu'augmenter très vite quand on part de zéro. Mais enfin, on voit quand même une progression peut-être lente, mais certaine. Et la courbe verte, eh bien, ce sont les filières informatiques. Alors là, c'est quand même tout à fait particulier. Parce qu'on s'aperçoit que dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, la discipline informatique fait partie des disciplines dans lesquelles il y a le plus de femmes. La seule discipline qui la double à cette époque-là, c'est les disciplines agro et biologie. Mais sinon, c'est là où on a le plus de femmes. Il y a même des écoles, à l'INSA de Rennes par exemple, en 1979, il y a plus de 50% de femmes qui vont être diplômées ingénieurs informatiques. Aujourd'hui, la discipline informatique fait partie des disciplines dans lesquelles il y a le moins de femmes. En dessous, on a l'aéronautique et certaines filières de mécanique. Oui, il n'y a pas grand monde en dessous. Cette courbe en forme de cloche ne se trouve que dans les disciplines informatiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous proposer une autre façon de voir les mêmes courbes. C'est-à-dire non plus en pourcentage, mais en nombre. Vous avez en vert le nombre de femmes dans 10 grandes écoles d'ingénieurs. Et en bleu, le nombre d'hommes, dans ces mêmes 10 grandes écoles d'ingénieurs. Là, en ce moment, j'ai recontacté toutes ces écoles pour poursuivre mes courbes. Elles ne m'ont pas encore toutes répondu. C'est très difficile d'avoir des chiffres sexués. C'était très, très difficile avant 2000. Depuis 2000, les écoles ont tendance à produire des chiffres sexués, mais c'est toujours assez difficile à obtenir. En particulier, d'ailleurs, parce que parfois, les écoles sont embarrassées de vous dire « oui, ben, on est plutôt à 11%, 12%, sans avoir forcément conscience, d'ailleurs, qu'elles sont toutes logées à la même enseigne. Donc, j'ai commencé à poursuivre mes courbes, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Donc, vous voyez qu'en nombre, on n'a pas la même vision que sur le tableau d'avant. C'est-à-dire, le nombre des femmes en informatique, il est bas, certes, mais on ne peut pas dire qu'il chute, il ne s'écroule pas. Les femmes n'ont pas déserté les métiers de l'informatique. Mais au fur et à mesure que les filières grossissent, c'est-à-dire que par exemple dans les années 80, les filières faisaient peut-être 20 ou 40 personnes dans certaines écoles, et aujourd'hui elles font peut-être 100, 120 personnes dans ces mêmes écoles, d'autres écoles créent des filières spécifiques, c'est-à-dire qu'avant ça s'appelait électronique, automatisme, informatique, et puis ensuite les filières sont devenues plus spécifiques. Donc au fur et à mesure que des filières s'ouvrent ou grossissent, eh bien l'afflux de personnes qui vient les remplir, ce sont des hommes. Mais on ne constate pas une désertion des femmes dans les études informatiques. On va continuer à avancer un petit peu, on va aller dans l'emploi. Alors c'est une enquête qui date un petit peu, vu qu'elle date de 2003, mais là encore, je ne pense pas qu'on ait une révolution depuis. C'est une enquête que j'ai faite avec une collègue qui s'appelle Maud Ingarao sur le secteur des SS2I en France. C'est quand même un peu une spécialité française, les sociétés de services en informatique. Et là encore, c'est des chiffres très difficiles à avoir parce que la part des femmes est tellement basse que parfois les statisticiens nous disaient « on a négligé le pourcentage de femmes, c'est trop bas, c'est pas statistiquement significatif ». Ben oui, je sais. C'est bien pour ça que j'ai envie de connaître le pourcentage des femmes. Parce que si on le néglige à chaque fois parce qu'il n'est pas visible, bah pour le coup, c'est jamais visible. Et on ne fait des calculs finalement que sur les hommes. Alors, à force d'insister, on a réussi à avoir des pourcentages. Donc, si on segmente le secteur dans ces catégories, à la fois, on voit que le secteur le plus prestigieux, dans lequel il y a le plus de monde, c'est celui en pourcentage, il y a le moins de femmes, c'est le conseil, 25%. C'est là où il y a les plus gros salaires aussi. Ensuite, le logiciel, qui est, ma foi, un secteur qui a tendance de plus en plus à s'exporter à l'étranger, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est, un petit peu plus. En infogérance, qui a été très, très porteur à une époque et qui... Alors, apparemment, ça revient, mais enfin, ça a pas mal disparu. Elles sont quasiment à la moitié. Et dans ce secteur moribond, et pour ainsi dire en voie de disparition, qui sont les bases de données, 52%. Donc, la division sexuée du travail se retrouve, finalement, dans les différentes filières, dans les différents secteurs DSS2I, avec aussi les secteurs les plus anciens, historiquement, infogérance et bases de données, qui se souviennent, entre guillemets, de cette époque où il y avait pas mal de femmes en pourcentage en informatique, et ces secteurs plus nouveaux ou en pleine expansion, où c'est essentiellement des hommes qui viennent les remplir. Alors ensuite, pour info, les doctorats en informatique, tels que l'a comptabilisé l'Union européenne, dans un document qui regroupe beaucoup de chiffres, s'appelle She Figures, en France, 76... Enfin, en 2006, 76 femmes docteurs en informatique pour 328 hommes. C'est finalement pas si mal par rapport à la Suisse ou même à la Belgique. La France a des chiffres comparables à l'Union européenne. La Belgique et la Suisse, un peu en dessous. Franchement, en dessous. En 2010, on a un autre paradoxe qu'il faut relever. Après, je vous laisse tranquille avec les chiffres. Mais vous allez voir, c'est quand même assez curieux. 117 000 femmes ingénieures à la sortie de l'école. Et pour ces 117 femmes, les STIC, technologie de l'information et de la communication, sont leur deuxième choix. Premier choix, c'est le secteur agro. Évidemment. Enfin, je dirais évidemment. C'est le premier choix depuis longtemps. Mais le deuxième choix, pour 15%, alors elles sont à une trentaine de pourcents, pour 15% de ces 117 000 femmes ingénieures, c'est le secteur des STIC. Deuxième choix. Par contre, il y a environ 3 fois plus d'hommes, un peu plus même, enfin elles sont 4 fois plus d'hommes, 545 000 hommes ingénieurs, mais les STIC, c'est leur premier choix pour un tiers d'entre eux. Alors évidemment, vous comprenez ensuite comment on obtient ce 11% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Il y a un quart de femmes ingénieurs, c'est peut-être leur deuxième choix, mais comme c'est le premier choix pour un tiers de tous les hommes ingénieurs, en gros, on a toujours la même quantité d'eau, mais on l'a répartie dans beaucoup de récipients, vous voyez. Donc le niveau n'est pas très haut. Mais on ne peut pas dire que les femmes n'aiment pas l'informatique, que les femmes ne veulent pas y aller, que ça ne les intéresse pas. C'est leur deuxième choix, c'est pas si mal. Vous voyez ? C'est-à-dire que si on essaie de réfléchir à comment faire en sorte que les femmes soient intéressées par les métiers de l'informatique, non, c'est bon, elles sont intéressées. Quand c'est le deuxième choix, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées. Par contre, oui, beaucoup d'hommes sont vraiment très intéressés. Et comme ils sont dans le vivier 4 fois plus nombreux, ben voilà. Alors, d'où viennent ces écarts et d'où viennent ces courbes curieuses ? C'est-à-dire, vous voyez, vous vous souvenez, cette courbe en forme de cloche qu'on avait pour l'informatique qui a fait que les femmes ne se sont pas enfuies, mais les hommes y sont allés en grande quantité. Alors, premièrement, il y a quelque chose qu'on a assez bien identifié en socio, en sciences de l'éducation, qui s'appelle la division socio-sexuée des savoirs, qui est un concept qui a été développé par une chercheuse en sciences de l'éducation qui s'appelle Nicole Moscone, qui explique que, bien sûr, tout le monde a le droit d'étudier ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et personne n'empêche les enfants d'ouvriers de devenir ingénieurs, et personne n'empêche les garçons de devenir sages-femmes, et personne n'empêche les filles de devenir mécaniciennes ou informaticiennes. Juste, ça se fait moins. C'est-à-dire que tout le monde sait, j'ai pas dit que tout le monde était d'accord, mais tout le monde sait que, eh bien, d'ordinaire, les hommes ne font pas un certain nombre de disciplines, ne vont pas vers un certain nombre de savoirs, et que les femmes, d'ordinaire, ne font pas. Et on a même tendance à le généraliser bien plus que ce qui naît en réalité. Donc, selon votre milieu social, selon votre sexe, il y a certains savoirs qui vous sont accessibles et qu'on suppose naturellement accessibles, comme vous voyez, si votre nature propre vous y emmenait, et d'autres savoirs sont transgressifs, voire tabous. On peut transgresser, bien sûr, mais la transgression, ça a toujours un coût. C'est-à-dire que certaines personnes ont très envie de transgresser, et elles y vont, et parfois s'y plaisent beaucoup, d'autres, parfois ça se passe moins bien. Vous comprenez bien que c'est plus facile d'aller dans ce qu'on estime naturel pour vous que d'aller dans la transgression. Et évidemment, l'informatique n'échappe pas à cette division socio-sexuée des savoirs. Tout le monde sait, entre guillemets, que les maths sont supposées être une discipline masculine, c'est-à-dire plutôt en faveur des hommes, et que la technique aussi. J'ai pas dit que tout le monde était d'accord, mais les enseignants, les élèves, les parents, les conseillers, conseillères d'orientation psychologique, etc., etc., le savent. Alors ça, ça explique éventuellement pourquoi peu de femmes, mais ça n'explique pas cet engouement massif qu'on a vu chez les hommes au début des années 80. On va continuer sur cette idée de « aujourd'hui, toujours peu de femmes ». Cette page-là vient du 21e siècle, malgré les apparences. J'ai récupéré ça sur un site internet d'un magasin de jouets qui, depuis, a complètement changé sa communication, et une communication beaucoup plus mixte. Mais si ça peut vous rassurer, ça rôde. C'est-à-dire, ce magasin de jouets-là a changé, mais c'est un autre qui l'a adopté. Et d'une année à l'autre, voilà, je pense que les marketeurs, les publicitaires font des tests. Voilà. Donc finalement, c'est un assez bon exemple de ce qui se passe dans un environnement de magasin de jouets. Alors regardez bien cette image, vous avez trois rubriques. Ses amis préférés, autour de la poupée, comme une grande. La page est rose, pour qu'on ne s'y trompe pas. Et les filles ont à leur disposition 1700 jouets. Maintenant, dans la rubrique comme une grande, on va cliquer sur imiter maman. Ça a l'air fun, hein, d'imiter maman. En nettoyant, en repassant, en cuisinant, dînette et ustensiles de cuisine. Nous allons cliquer sur « Imiter un métier ». Vendeuse des quatre saisons, coiffeuse, esthéticienne, secrétaire, institutrice, infirmière. Le monde des magasins de jouets est bien rangé. C'est moins qu'on puisse dire. Tournons la page. Donc, regardez bien les trois rubriques et regardez bien le nombre de jouets. Hop. Les garçons ont 2900 jouets. Et la rubrique « Ses amis préférés » a changé. C'est devenu ses héros préférés. Les garçons n'ont pas d'amis. Les garçons n'ont que des héros. C'est épuisant d'avoir que des héros. C'est-à-dire que vous n'avez pas de pairs avec lesquels vous pouvez partager, échanger, être en confiance, vous poser, discuter. Non, non. Vous n'avez que des concurrents avec lesquels vous devez vous mesurer. Vous ne pouvez pas être moins que Superman, Spider-Man. C'est pas aussi fort que papa. C'est plus fort que tout le monde. C'est vraiment épuisant de n'avoir que des héros et pas d'amis. Alors, le garçon aussi peut imiter papa. Petit bricoleur avec une voiture, avec une moto, avec un camion. Ça a l'air plus drôle qu'imiter maman, hein, faut pas se cacher les yeux. Imiter un métier, chef de chantier, pompier, policier, garagiste, fermier, et allez savoir, opérateur de transmission. Alors, les enfants sont pas si bêtes. C'est-à-dire, les enfants savent que le monde n'est pas à ce point binaire rose-bleu. Néanmoins, leur environnement tout petit est quand même très orienté. De toute façon, vous entrez dans un magasin de jouets, vous voyez un halo rose dans un coin, les garçons savent que c'est la zone à éviter. Ça se repère de très loin. Donc, les enfants savent que le monde n'est pas si binaire, mais néanmoins, on peut se demander qu'est-ce que va penser de son père, un petit garçon ou une petite fille, qui, bah, pour le coup, son père n'est pas bricoleur. Où son père n'est pas garagiste, mais est dans les soins infirmiers. Ou que va penser un garçon de sa mère qui ne repasse pas, ne cuisine pas et n'est pas passionné par la dînette et ustensiles de cuisine. On s'aperçoit que chez les enfants, le poids du modèle, du stéréotype, est plus fort que le modèle parental. Je me souviens d'une de mes stagiaires qui me disait que pour Noël, sa fille lui avait offert un tablier. Alors qu'elle ne cuisinait pas et que chez eux, c'était son mari qui cuisinait tout le temps. Mais elle avait appris que le tablier est approprié aux mamans. Donc même si chez elle, maman ne cuisine pas, ça reste un cadeau approprié. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle a dit maman ? Bah, elle a dit merci, c'est très gentil, c'est super. Bien sûr, on ne va pas dire ton cadeau est nul, je ne cuisine pas. Donc les stéréotypes de l'environnement sont finalement plus puissants que les modèles parentaux. Cette année, c'est la FNAC que j'ai pris en flagrant délit de... La FNAC, vous voyez ? Que j'ai pris en flagrant délit de sexuer ses jouets avec un... Sur la page garçon, il y avait un jeu de Uno, vous savez, ce jeu de cartes, un Uno Toy Story pour les garçons. C'est-à-dire que si on pousse la logique jusqu'au bout, les filles et les garçons ne peuvent plus jouer aux cartes ensemble. Parce que vous avez le Uno Toy Story pour les garçons et puis il y a probablement le Uno Hello Kitty ou Charlotte aux fraises ou Petit Poney pour les filles. C'est-à-dire qu'on est dans un discours qui dit « Nous sommes égaux, il faut vivre ensemble, la différence, on se rencontre, on partage, la mixité, c'est super, etc. » Et en même temps, on s'exsue de plus en plus la moindre cuillère pour bébé, pour manger sa soupe, la première brassière venue, jusqu'au jeu de cartes. C'est-à-dire que de mon temps, on pouvait avoir un vélo jaune pour l'aîné qu'on allait refiler au petit deuxième, parce que ma foi, le vélo jaune est aussi bien pour les garçons et pour les filles. Aujourd'hui, quand l'aîné a, par exemple, quand la fille aînée a un vélo Hello Kitty, le petit deuxième, jamais, mais alors jamais, il va en vouloir si c'est un garçon, on est obligé de racheter. Donc, il y a un intérêt marketing à segmenter au maximum. Et en même temps, vous comprenez qu'on est en train d'expliquer aux enfants qu'ils sont tellement radicalement différents qu'on se demande même comment ils peuvent partager un jeu de cartes. Tout en tenant un discours « vivons en milieu mixte ». C'est complètement schizophrène comme position actuellement. Revenons à l'ordinateur plus précisément, avec ce livre que j'ai rencontré il y a quelques années et qui depuis reste pour moi une référence absolue en termes de vision masculine de l'ordinateur. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux. L'histoire de l'ordinateur chez Fleurus, qui s'inscrit dans une série de livres sur l'histoire des techniques. Alors, par exemple... attendez, je ne vais pas vous montrer cette page-là tout de suite. Il y a une brève histoire de l'ordinateur au début. Dans cette brève histoire de l'ordinateur, on voit Charles Babbage, on ne voit pas Ada Lovelace, mais pire, on voit la découverte du bug. Et qui découvre le bug? Vous avez trois scientifiques en blouse blanche devant l'ENIAC, et une petite mythe qui s'envole et qui dit « le bug, c'est moi ». C'est-à-dire... D'une part, il y a une amnésie, on oublie Ada Lovelace en route, mais il y a aussi un travestissement de l'histoire, parce qu'au moment où on parle d'un insecte, du bug, qui est un terme que tous les enfants connaissent, qui s'accroche pour le coup à une femme qui n'a pas fait que découvrir le bug, mais qui a une vraie présence dans l'histoire de l'informatique, le dessinateur ou la dessinatrice, je ne peux pas dire parce qu'il y a un homme et une femme qui ont illustré, il a fait comme d'habitude, quoi, il a dessiné des hommes. Et Grasshopper n'est absolument pas cité dans l'histoire de l'informatique. Un peu plus tard, voici l'invention de l'écran. Alors, nous avons une opératrice de saisie qui est devant son clavier et qui dit « Oh là là, je ne sais plus où j'en suis ». Il y a un homme qui passe, qui se dit « Inventons l'écran ». Case suivante, l'écran est inventé. Elle a quatre hommes autour d'elle qui regardent et elle dit « Grâce à cet écran, je peux enfin voir ce que je fais ». Et l'inventeur de l'écran dit « Alors, satisfaite ?» Alors je me suis dit, peut-être j'ai l'esprit mal tourné. J'ai montré ça à des amis. Je vous rassure, tout le monde m'a dit « alors heureuse ». Surtout avec ces quatre hommes autour, enfin, c'est une mise en scène d'un goût extrêmement douteux, c'est moins qu'on puisse dire. Donc voici la première apparition dans ce livre d'une femme dans l'histoire de l'informatique. Je voulais vous montrer une deuxième apparition aujourd'hui. Alors l'informatique aujourd'hui, c'est par exemple la retouche d'image, effectivement. Donc voilà comment les femmes interviennent dans l'informatique aujourd'hui en tant que top modèle pour un maillot de bain. Sauf que, regardez sur la deuxième image, elle est toute poilue. Il faut absolument retoucher l'image. Quel est ce fantasme idiot dans lequel une top modèle ne viendrait pas parfaitement épilée pour poser en maillot de bain, franchement? Donc, en plus, la mise en scène est ridicule. Elle est ancrée sur rien de réaliste, vous voyez. Mais grâce à la magie du technicien informatique... Hop, une épilation parfaite et numérique qui permet de mystifier les jeunes femmes qui vont feuilleter les catalogues. Voilà les femmes dans l'informatique d'aujourd'hui. Il y a une troisième BD où on voit l'invention d'une webcam, où il y a une femme qui est dans le public qui voit l'invention de la webcam. C'est les trois femmes représentées, les voilà, donc celle qui est heureuse d'avoir un écran, celle qui est toute poilue, et puis l'autre, je ne vous l'ai pas montré, elle dit rien, elle regarde la webcam qui a été inventée. Parce que sinon, les autres images, voilà comment elles sont. C'est-à-dire la main qui tient la carte de paiement, la main qui charge le lecteur CD, les deux personnes qui font du son et le père qui parle à son enfant, ce ne sont que des hommes dans ce livre qui utilisent l'informatique. Alors, j'ai envie de dire, allez voir dans la vraie vie, vous allez voir, il y a des tas de femmes qui utilisent l'ordinateur. Mais dans ce livre, non. Elles ne l'inventent pas, elles n'inventent rien, elles ne sont pas actives dans l'informatique, elles sont dans le paysage autour. C'est-à-dire, ce livre explique d'une part aux filles qu'elles n'ont rien à y faire et d'autre part aux garçons que si par hasard ils croisent une fille, elle n'a rien à y faire. Voilà des moyens d'expliquer si peu de femmes. Pourquoi tant de garçons? Alors passons à cette phase 2. Qu'est-ce qui a bien pu attirer tous ces garçons, tous ces hommes en informatique. Alors, j'ai postulé, la thèse que je défends, c'est qu'il y a eu un changement de représentation important au moment où l'ordinateur est arrivé dans les années 80. Alors, chaque fois qu'il y a une invention technique, ce sont toujours les garçons qui en bénéficient en premier. Ça a été le baladeur, ça a été le magnétophone, les premières consoles de jeux, les ordinateurs, ça a été pareil. 1980, grosso modo, hein, les premiers ordinateurs arrivent. Ils sont assez chers à l'époque. On ne comprend pas toujours bien à quoi ils peuvent servir. Surtout les parents. Surtout ça coûte cher. Et ce sont d'abord des garçons qui sont équipés. Pas tous les garçons, évidemment, hein, c'est cher, comme je disais. Tous les garçons ne sont pas passionnés non plus. Mais ce sont d'abord des garçons qui sont équipés et qui constituent des micro-sociétés de garçons technophiles, adolescents, donc hostiles aux filles, à cet âge-là où les filles représentent les autres, qui font un peu peur. Et tous les garçons n'étaient pas forcément bienvenus dans ces clubs de technophiles, mais on voulait bien leur faire crédit de la compétence ou en tout cas de pouvoir potentiellement faire partie de la famille. Les filles partaient avec un handicap, c'est qu'elles étaient des filles. Donc éventuellement, elles pouvaient faire partie de la famille, mais il fallait qu'elles en veulent, il fallait qu'elles y aillent, il fallait que ça les intéresse vraiment, qu'elles se battent pour la place. J'ai des récits de jeunes femmes, quand elles étaient à l'école, dans les années 85, par là, où elles expliquaient qu'elles avaient bien envie, par exemple, d'aller au club informatique de leur collège, mais comme elles s'étaient fait dégager à coups de coude par les garçons, alors au début, elles me disent les garçons, et puis elles me disent non, c'est pas les garçons. C'était toujours les 5-6 mêmes. Alors, c'est pas tous les garçons, mais comme c'est quasiment que des garçons, ça crée cette image que les garçons, en général, tous, seraient passionnés et seraient enthousiastes pour l'informatique. Et là, l'image de l'informatique se transforme. C'est-à-dire qu'avant le micro-ordinateur, on ne savait pas bien ce que c'était que l'informatique, c'était des grosses machines qui ressemblaient à des congélateurs, qui étaient dans les administrations, dans les banques, bref, dans le secteur tertiaire. Pour une femme technicienne ou mathématicienne, finalement, le tertiaire, c'est toujours mieux que le casque, les bottes sur un chantier. C'était des bons métiers pour les femmes techniciennes. Le micro-ordinateur arrive, on ne sait pas plus ce que c'est que les métiers de l'informatique, mais on imagine que, finalement, c'est la même chose, mais en plus grand que ce qu'on fait sur les micro-ordinateurs. Ce n'est pas vrai du tout, mais quand on s'oriente sur la représentation qu'on a du métier, plus que sur le métier lui-même, si on ne le connaît pas, ce qui est souvent le cas. Et donc l'image de l'informatique se transforme, ça ne devient plus cette machine du tertiaire, mais ça devient un peu l'image que vous avez là, le jeune homme virtuose, celui qu'on n'appelait pas encore à l'époque, en France en tout cas, le geek ou le nerd, mais le jeune homme brillant, qui deviendra plus tard un adulte tout aussi brillant, mais tout aussi enfermé sur son ordinateur. Alors je suis allée voir des étudiants et des étudiantes en première année de sciences à l'université, en informatique. Non, pardon, première année de sciences, toutes filières confondues. Donc des biologistes, des mathématiciens, des géologues, des informaticiens, des chimistes, enfin toutes filières confondues. Et je leur ai demandé, si vous aviez la possibilité de devenir informaticien, informaticienne, est-ce que cela vous tenterait ? Alors, un quart des garçons me répond « oui, ça me tenterait ». Et 9% des filles seulement. Un bon tiers des garçons me répond « non, ça ne me tenterait pas ». Autant pour tous les garçons sont passionnés par l'informatique. Pour le coup, quand on voit ça, on se dit « il y a plus de garçons qui n'en veulent pas que de garçons que ça intéresse ». Alors elles sont où les filles ? Elles ne sont pas non plus dans le « non ». C'est-à-dire si on regarde simplement la colonne « non », il y a plus de garçons que de filles qui refusent l'informatique. Les filles, elles sont dans « je ne sais pas ». Il y en a deux tiers qui sont dans « je ne sais pas ». Ce « je ne sais pas » ne veut pas dire « j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans ma vie ». Parce que j'ai fait d'autres questions dans mon questionnaire qui permettent de qualifier un peu ce « je ne sais pas ». Ce que ça veut dire, c'est « j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, devenir informaticien, informaticienne, donc je ne peux pas savoir si ça me tente ou pas ». Alors effectivement, ce n'est pas leur premier choix. Ok. Par contre, elles ne peuvent pas répondre. Oui ou non. Les garçons sont un peu plus au courant de ce que c'est. Et donc, en conscience, peuvent un peu plus répondre « oui » pour un quart, « non » pour un tiers. La plupart des filles répondent « je ne sais pas ». Alors, je leur ai demandé aussi « qu'est-ce qui vous repousserait dans les métiers de l'informatique ?» Là, j'ai quand même trois quarts des garçons et des filles qui ont des idées de ce qui pourrait les repousser. Le premier argument, L'écart fille-garçon n'est pas statistiquement significatif, c'est répétitif. Un informaticien fait toute la journée la même chose derrière son écran tout le temps. Ce sont les mêmes qui, par ailleurs, dans ce même questionnaire, m'ont dit qu'un informaticien ou une informaticienne doit apprendre tous les jours des choses nouvelles. Le propre des stéréotypes, c'est qu'on peut faire cohabiter des choses qui sont éventuellement opposées sans que ça pose de problème. Donc voilà, un informaticien fait toujours la même chose, toute sa journée, tout le temps, et en plus, là, l'écart garçon-fille est significatif, ne parle qu'à des machines. C'est ce que j'ai appelé inanimé, c'est-à-dire ne parle qu'à des machines, qu'à des ordinateurs, qu'à des robots, il ne parle pas aux êtres vivants, alors que moi, me disent-ils, me disent-elles, j'ai envie de parler à des gens, j'ai envie de travailler avec des enfants, avec des animaux, enfin bref, avec des êtres vivants. Alors que l'informaticien est enfermé dans son bureau toute la journée, ne voit personne et fait tout le temps la même chose. C'est vrai, vu comme ça, ça n'avait pas très envie. Bien sûr, l'informatique est quand même un métier où on travaille en groupe, avec des utilisateurs, avec des clients, en groupe d'informaticiens, sur des gros projets qui impliquent de nombreuses personnes. Un informaticien ne passe pas plus de temps obnubilé par son ordinateur qu'une secrétaire, par exemple, qui travaille sur son traitement de texte. C'est un métier où on travaille en groupe d'humains qu'on rencontre en vrai, malgré les apparences, enfin malgré ce que croient les étudiants. Le troisième argument, qui n'est voté que par les garçons, c'est parce que la vie professionnelle des informaticiens n'est pas très drôle finalement. Pas très drôle, ça veut dire quoi ? Essentiellement, ce qui me pointe, c'est que ce n'est pas si bien payé que ça, quoi qu'on en dise, par rapport à la difficulté des études, et que quoi qu'on en dise, il y a aussi du chômage. Donc, ça ne vaut peut-être pas forcément la peine. Et le troisième argument pointé par les filles, c'est pas... Et puis aussi, on fait beaucoup d'heures, un informaticien se travaille beaucoup tout le temps, et voilà. Ça, toutes ces réalités de la vie professionnelle que les garçons imaginent faisaient qu'ils n'en avaient pas envie. Ça veut dire aussi qu'ils connaissent un peu mieux le métier que les filles, parce qu'ils peuvent citer ces éléments. Alors le troisième argument pour les filles, c'est trop difficile. Et là, on retrouve quelque chose qu'on a aussi en maths, on a le même phénomène en maths, c'est-à-dire que dans cette discipline qui est supposée être plutôt masculine, c'est-à-dire plutôt en propre pour les garçons, les filles font des attributions internes à leurs difficultés. C'est très difficile, j'y arrive pas, j'y comprends rien. Alors que les garçons ont tendance à faire des attributions externes à leurs difficultés. Ça me prend la tête, le prof est nul, on peut rien y comprendre. Voyez. Alors on n'a pas le même sentiment de compétence quand on dit le prof est nul, ça me prend la tête, ou quand on dit c'est trop difficile, j'y arrive pas. Alors finalement, un informaticien, vous voyez, je vous l'ai mis en photo, comme ça on sait ce que c'est. Si je synthétise le point de vue des étudiants et des étudiantes en sciences, hein, je ne suis pas allée prendre des étudiants qui se destinaient à faire des lettres ou des sciences humaines et sociales. Un informaticien ne sort pas de son bureau, ne parle qu'aux machines, avec un S, et fait toute la journée des tâches répétitives. Et je vous l'ai mis en photo. Cette photo, elle date de 2007, je l'ai prise dans Matin Plus, maintenant ça s'appelle Direct Matin, rubrique emploi. Les informaticiens très demandés, et puis pour que les gens qui lisent la rubrique emploi réalisent mieux quel genre de personnes on demande, voyez, on vous l'a mis en photo. Ce jour-là, j'allais chez IBM, justement pour parler des femmes en informatique. Alors c'était pain béni, je suis allée avec ma photo, et puis j'ai dit aux gens que je rencontrais, c'est fou, mais il n'y a pas d'informaticien chez IBM, regardez, j'en ai un en photo, j'en vois pas. Évidemment, ça les a amusés, je voyais des gens en tailleur ou en costume, plutôt bleu, parce que quand même chez IBM on a des traditions, mais pas comme ça. Alors oui, ce jeune homme qui est dans une salle machine avec derrière des unités centrales, des câbles devant lui, des écrans, ça existe. Oui, bien sûr, ça existe. Mais ce n'est pas ça un informaticien très demandé. D'ailleurs, ce n'est sûrement pas ces profils-là qui sont les plus demandés, d'une part. D'autre part, par exemple, la programmation, c'est moins de 20% des activités informatiques aujourd'hui. On est quand même sur un métier très spécifique. Alors évidemment, si on vous met une personne en costume ou une personne d'un tailleur devant un écran, à quoi on va reconnaître c'est un informaticien? C'est pas très visuel pour la presse. Ça l'est plus. Sauf qu'une image comme ça, c'est pas attirant pour tous les garçons, c'est pas du tout attirant pour les filles, surtout que les filles en plus peuvent s'imaginer que dans l'avenir, voilà leurs collègues de travail, ils seront tous comme ça. Mais pour les garçons, l'écart à franchir est quand même moins grand que pour les filles, parce que quand même, avant tout, c'est un garçon qui aime la technique, et ma foi, si je suis un garçon qui aime la technique, pourquoi pas. Donc je pense que vous avez compris, voilà, un informaticien, l'image est restée figée, je ne vais pas dire à l'époque de Grasshopper, mais enfin quasiment, c'est-à-dire que de mon temps, quand j'ai fait mes études d'informatique, Internet n'existait pas. Et quand on écoute les étudiants de 2003, on a l'impression que l'Internet n'existe toujours pas. C'est-à-dire, quand je leur ai demandé de me parler des métiers de l'informatique, le mot Internet a été cité 8 fois, le mot communication 11 fois. J'avais 363 questionnaires. Bien sûr, c'est des étudiants et des étudiantes qui utilisent ces technologies sans arrêt. Mais c'est comme si derrière tous ces usages, le seul métier, c'était programmeur. Parce que pour eux et pour elles, un informaticien, ça crée des programmes. Et c'est tout. C'est évidemment une représentation déconnectée de la réalité des métiers. Mais on s'oriente avant tout sur les représentations quand on n'a pas accès à la réalité des métiers. Alors, ensuite, dans les entreprises, eh bien, ma foi, dans les entreprises et les obstacles rencontrés par les femmes cadres du secteur privé en informatique ou ailleurs, ben, ce sont les mêmes. Des écarts de salaire. Alors, ce qu'il faut quand même noter en informatique, c'est que avant la crise que l'on traverse actuellement, l'informatique était le secteur dans lequel il n'y avait pas d'écart de salaire à l'embauche entre les hommes et les femmes. C'était extraordinaire, c'était un des très rares. Depuis la crise actuelle, et bien que l'informatique soit toujours un secteur en croissance, on a retrouvé un écart de salaire d'environ 15%. Le plafond de verre, c'est-à-dire que vers 30 ans, c'est curieux, mais au moment où les femmes sont suspectées de vouloir des enfants, qu'elles en veuillent ou non, ou alors à l'époque, on va supposer qu'une fois qu'elles ont eu les enfants, tous leurs neurones seront complètement absorbés, toute leur activité sera absorbée dans le soin à ces enfants, et bien leur carrière stagne. Alors que c'est précisément à cette époque-là où les carrières des hommes décollent. Et puis, la coordination vie privée-vie professionnelle ne semble dépendre que d'elle. Les enfants, ça se fait à deux, mais leur soin se fait visiblement à un. Alors si j'emploie coordination et pas conciliation, c'est exprès. Conciliation, on suppose que la paix est obtenue, on a concilié. Bon, la conciliation, ça n'existe pas. C'est un conflit permanent. Et les hommes et les femmes qui se collent à ce problème savent que c'est un conflit permanent. Au mieux, on articule, mais on concilie jamais. Et puis, il ne faut pas se cacher les yeux, le sexisme brutal d'une minorité d'hommes existe toujours. Je dis bien une minorité. C'est-à-dire que les jeunes informaticiennes que j'ai interviewées sont entrées en entreprise et ça se passait très bien au début. Déjà, ça s'est souvent très bien passé à l'école. Ensuite, elles arrivent en entreprise, ça se passe bien, les collègues sont sympas. Et puis, un beau jour, elles tombent sur un collègue, un chef, un client qui ne supporte pas de voir une femme à ce poste. Quand c'est un chef ou un client, c'est dramatique. Parce que le chef, évidemment, ne parle jamais d'elle pour la promo, pour une promotion. Le client refuse de travailler avec elle. Et quand c'est en SS2I, par exemple, une femme qui est rejetée par un client dans une SS2I, c'est très mal vu. Très, très mal vu. Elles n'obtiennent en général aucun soutien de la part de la structure. Et on les renvoie à leur propre capacité à agir en milieu d'hommes. Alors que jusqu'à présent, elles n'avaient jamais eu aucun problème. Elles n'ont pas de problème à être dans des milieux où il n'y a que des hommes. Elles ont des problèmes à être dans des milieux où il y a un macho. C'est quand même un tout petit peu différent. Et donc, elles vont passer un an, deux ans avec un chef qui ne va pas vouloir leur donner de promotion, avec un client qui va leur mener une vie absolument misérable. Et puis, elles vont réussir à changer de client, changer de chef. Et on va leur dire, mais t'as fait quoi pendant deux ans, là, pendant que tes collègues progressaient? Donc oui, c'est une minorité d'hommes, mais ça existe toujours. Et il y a des femmes qui tombent des nues et qui m'ont dit en interview, mais comment? Alors, effectivement, c'était certaines interviews datent du siècle passé, vous voyez, par exemple, 99, ou bien, comment au 21e siècle, on en est encore là? Ben, ouais, elles tombent des nues, surtout qu'à l'école, en général, ça s'est bien passé, on en est encore là. Elles n'y croient pas elles-mêmes, leurs collègues n'y croient pas non plus. Plus spécifiquement en sciences et techniques, donc, les femmes sont toujours suspectées d'incompétence ou inversement, surprotégées, avec un certain paternaliste. Par exemple, je me souviens d'une femme qui disait, son chef lui avait dit, on t'a pas proposé de venir à la réunion parce que c'était le soir et on savait qu'avec tes enfants, c'était pas facile. Donc déjà, demandez-moi, si ça se trouve, c'est facile. Deuxièmement, il place la réunion à ce moment-là, en sachant qu'elle pourra pas venir, ou en supposant qu'elle pourra pas venir, bah, d'entrée de jeu, il sait que la réunion est discriminante. Mais il la protège, il lui demande pas de venir, vous voyez. Ça, ça a un coût en termes de carrière, évidemment. Et puis, ce que les employeurs perçoivent pas, ou mal, c'est que le système de cooptation entre pairs et les réseaux informels de communication, c'est très puissant pour avancer dans l'entreprise. Les décisions se prennent pas forcément dans la réunion le lundi matin, mais autour de la bière le soir, ou en allant courir dans des couloirs pour tuer des monstres avec son jeu vidéo. Là, il y a des infos qui passent, très importantes. Il y a des amitiés qui se créent. C'est là qu'on dit, tiens, j'ai le client machin qui m'a rappelé, qui m'a dit ça. Ah oui, mais ça, je sais faire, en fait. Et ça, ça se passe dans des moments informels. Et là, les femmes, y sont moins souvent. Alors, soit parce que, bah, après le boulot, c'est le moment où elles vont chercher les enfants, surtout si elles sont divorcées, et avec la charge des enfants. C'est aussi parfois des activités dans lesquelles elles sont peu présentes. Je me souviens d'une SS2I où il y a des hommes qui me disaient « Nous, on est tous une chouette bande de rugbyman. » Là, je sentais que ça partait mal, vous voyez. Dans le vestiaire, il y a peu de... au moment où on parle, il y a peu de chances que les femmes soient là. Et puis comme ça, on a un sentiment d'illégitimité qui est entretenu. Et un jour, parfois, ça explose à la figure des femmes. C'est-à-dire à force de traîner ce soupçon que si ça se trouve, on n'est pas si compétente. Un jour, on se trompe. Tout le monde se trompe. Alors, si on est sûr de soi, on s'est dit « Bon, bah là, je me suis trompée. Allez, hop, on passe à autre chose. » Mais si on n'arrête pas de vous dire « Si ça se trouve, t'es pas compétente. » Le jour où vous vous trompez, d'une part, pour votre entourage, c'est la confirmation qu'on avait raison, vous ne l'étiez pas, et peut-être que pour vous-même, ça commence à saper la confiance que vous avez en vous. Alors, si les femmes sont excellentes, tout va bien. Quand on fait des réunions femmes et sciences, femmes et techniques, on a souvent des femmes absolument brillantes, qui ont fait des carrières super et qui disent « Aucun problème, ça s'est bien passé, c'est génial. » Oui, parfois, il y a des remarques un peu macho, mais on les remet à leur place et ça va. Oui, celles qui viennent témoigner, c'est parce que ça se passe bien. Toutes celles qui n'ont pas réussi à se maintenir, bah, par définition, elles ne viennent pas témoigner. Ou alors, ce n'est pas facile de venir en disant « Oui, mais je me sens en difficulté, c'est dur, je me sens fragile. » Évidemment, dans ces cas-là, on ne vient pas témoigner. Donc, si les femmes sont excellentes, tout va bien. Si elles sont juste normales, c'est plus dur. Alors, je vous ai mis cette image qui vient d'une enquête sur l'ambition au féminin qui a été menée par les grandes écoles. Parce que je me dis, quand je vois cette image, qu'il faudrait que les femmes et les employeurs se rencontrent. Les employeurs qui peuvent être des femmes employeurs, hein, la question, là, aucun souci. Parce qu'ils auraient des choses à se dire. En particulier, une moindre disponibilité est perçue comme un frein par 63% des employeurs, mais seulement par 28% des femmes. Par contre, ne pas participer aux réseaux informels de communication est vu comme un frein par 41% des femmes et par 15% des employeurs. De même que des difficultés à s'insérer dans un secteur d'activité à dominante masculine, pour les femmes, c'est en général pas un problème. Mais presque la moitié des employeurs pensent que ça l'est. Donc, on se dit, il faut que ces deux populations se rencontrent et on discute un jour. Parce que peut-être qu'on arrivera à mettre en phase un certain nombre d'éléments. Alors, bien sûr, on fait des choses. Il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place. Il y a des mesures incitatives en tout genre, de toute espèce. Et Femmes et Maths, l'association dont je fais partie, Femmes et Sciences, on est là aussi pour porter ce genre de mesures. J'ai participé à une enquête européenne sur les bonnes pratiques en matière de technologie de l'information et de la communication, France, Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, Autriche, Royaume-Uni. Donc, par pays, on a collecté des pratiques, on a isolé celles qu'on pouvait qualifier de bonnes, parce que ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on le fait bien, et on les a classées pour essayer de voir vers qui allaient ces pratiques. Alors, ce qui était très frappant, c'est qu'on s'est retrouvé autour d'une table avec les Anglais, qui avaient une pile de bonnes pratiques comme ça, les Français qui avaient une pile de bonnes pratiques comme ça, et des chiffres similaires. Alors les Anglais étaient un peu dépités de voir que malgré leur grosse pile de bonnes pratiques, ils avaient des chiffres aussi mauvais que les Français qui faisaient quasiment rien. Donc on en venait à se demander, mais finalement, faire quelque chose ou rien, est-ce que c'est pas un peu pareil ? C'est pas très optimiste, évidemment, quand on travaille sur ces questions-là. Quand on a commencé à regarder comment se répartissaient les pratiques, ben, on s'aperçoit que 60% des pratiques ciblent les enfants, les jeunes, les adultes, c'est-à-dire ciblent les femmes et disent « Allez les filles » ou « Allez les femmes, vous pouvez ». Et 40% des pratiques ciblent les personnes qu'on a appelées les acteurs du changement, c'est-à-dire ceux qui sont du côté du pouvoir, ceux qui ont les choses en main pour faire bouger les choses. Donc dire aux filles et aux femmes « Allez les filles, vous pouvez aller, vous êtes capables », c'est quand même un tout petit peu vexant dans la formulation. Et les femmes vous disent « Non, non, mais je ne vais pas en informatique parce que j'ai peur. C'est juste que ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. » Sans savoir, sans réfléchir forcément à ce serait quoi faire de l'informatique et quelle est ma liberté de choix quand je dis ça. Sur quoi je m'appuie ? Est-ce que j'ai joué au Uno et au Hello Kitty en toute mon enfance, par exemple ? Par contre, quand on va vers ces jeunes femmes ou ces jeunes filles en leur disant « Les métiers n'ont pas de sexe, venez dans nos entreprises », elles ne sont pas sottes. Elles regardent la mixité en entreprise. Elles voient bien que les métiers ont un sexe. Ce n'est pas vrai. Le discours n'est pas crédible. Souvent, en école d'ingénieur, vous avez la DRH qui vient avec le chef de projet présenter le boulot dans l'entreprise. Ben, c'est plus facile pour un garçon, évidemment, de se projeter dans chef de projet et d'une fille de se projeter dans DRH dans ces cas-là. Et ce couple-là, il est très fréquent. En plus, en ne faisant porter ces pratiques que sur le public, ça entretient l'idée que finalement, si les filles ne vont pas, c'est parce que c'est un peu leur faute. Elles se motiveraient. Elles iraient. Parce que les employeurs les accueillent à bras ouverts, bien sûr. Donc, puisque c'est de leur faute, ces acteurs du changement, ce n'est pas tant la peine qu'ils réfléchissent à comment changer les choses. Donc, les pratiques devraient avant tout, à mon sens, être orientées vers ceux qui ont les moyens d'influencer concrètement les orientations et les carrières. C'est-à-dire, pour beaucoup d'entreprises, elles essaient d'attirer les femmes dans leur entreprise. Bon, ce n'est pas le tout. Après, il faut leur proposer des carrières, je veux dire des vraies carrières. Il ne suffit pas de les embaucher. Il faut qu'elles aient envie de se maintenir dans l'entreprise parce qu'elles y progressent. Ce qui est très drôle, c'est de vous demander à une entreprise informatique combien vous avez de femmes. Elle vous dit 30%. 30%, c'est le chiffre suffisamment haut pour ne pas paraître ridicule, mais suffisamment modeste quand même pour être crédible. Les entreprises sont souvent incapables de savoir combien elles ont de femmes dans leur service informatique ou incapables de démêler qui est au service secrétariat, qui est au marketing et qui est réellement à l'informatique. 30%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, finalement? Premièrement, je pense qu'il est important de proposer des modèles d'identification plausibles. C'est-à-dire que quand on dit « les métiers n'ont pas de sexe », il faut le prouver. C'est-à-dire qu'il faut prouver que dans son entreprise, on peut faire carrière et on peut être une femme qui reste dans des profils techniques et qui font des carrières importantes et intéressantes. Parce qu'on s'aperçoit qu'en informatique, les informaticiennes, une fois qu'elles entrent, ensuite elles ont deux voies privilégiées, la formation et son corollaire, la documentation, et le marketing. Alors, le marketing, on peut faire une belle carrière. La formation, la documentation, en général, c'est vite plafonné. Et là, on va dire, ah ben oui, mais quand même, c'est bien la preuve que les femmes sont plus intéressées par la communication, la formation, la doc, tout ça, parce que c'est là qu'on les retrouve. Oui, mais c'est là où on leur offre des opportunités. Donc elles ne sont pas sottes non plus, les femmes. Si quand elles veulent faire carrière, elles vont là où on leur offre des opportunités. Celles qui veulent rester dans la production technique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice. Regardez, les femmes ne sont pas réellement des techniciennes parce qu'on les retrouve dans la formation ou dans la documentation, sauf que ce n'est que là qu'on leur offre des perspectives, souvent. Il est bien aussi de remarquer que les hommes et les femmes ont souvent des aspirations très semblables, comme se réaliser dans sa carrière. Ah oui, l'autre chose que je voulais dire sur les modèles d'identification plausibles, c'est le phénomène qu'on a en physique. En physique, sans arrêt, on vous ressort, les femmes peuvent faire de la physique, il y a Marie Curie, 2 prix Nobel. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous se projeter dans Marie Curie? Enfin, tout le monde n'imagine pas qu'on aura un jour 2 prix Nobel. Des modèles d'identification plausibles, ça veut dire atteignables, vous voyez. Donc, se préoccuper du suivi de carrière, ça, j'en ai déjà dit 2 mots. Et puis, il faut avoir en tête que la mixité, ce n'est pas une femme parmi 10 hommes. C'est juste une femme parmi 10 hommes, c'est pas la mixité, ça. C'est au moins, pour le coup, 30% de femmes, c'est vrai. C'est-à-dire que je me souviens de quelqu'un qui m'a dit « J'ai féminisé mon équipe, après, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop quand même. » Il y avait 2 femmes sur 10. Alors, je pense que le trop, on n'était pas menacés encore, vous voyez. C'est beaucoup plus facile quand les femmes sont un petit groupe, même si elles ne sont pas majoritaires, même si elles ne sont pas paritaires, un petit groupe. On peut commencer à avoir de la cooptation et on peut commencer à changer une dynamique. Alors qu'une femme parmi 10 hommes, c'est juste une femme parmi 10 hommes. Voilà, moi j'en ai fini.